Radio J, la chronique pour la paix. Uzi Meyerson, bonjour, merci d'être avec nous ce matin.
Bonjour à tous, bonjour Lise.
Alors ce matin, nous avons un invité qui n'est autre que David Benichou, directeur de projet en développement durable et en environnement. Voilà, j'arrête de bafouiller. David Benichou est israélien depuis 6 ans. Merci d'être avec nous.
Merci. Alors, bienvenue dans nos studios, David Benichou. Je vous résume aussi un petit peu, David. Vous êtes diplômé de l'École des sciences politiques de Paris. Vous avez été le directeur des affaires sociales du Fonds juif unifié pendant de nombreuses années, et beaucoup de gens vous connaissent à ce titre. Par la suite, vous avez fait votre alia, comme vient de le dire Lise, et vous travaillez désormais comme directeur de projet en stratégie de l'environnement, je crois, auprès de municipalités en Israël. Mais surtout, et c'est pour ça que vous êtes là, vous êtes un des fondateurs et animateurs des démocrates mobilisés qui ont manifesté pendant des semaines tous les samedis devant la résidence officielle de Benjamin Netanyahou à Jérusalem pour demander son départ. Alors, première question, David Benichou. Benjamin Netanyahou est parti. Voilà, c'est fait. Il y a désormais un nouveau gouvernement en Israël. Pourtant, ne ressentez-vous pas une certaine instabilité dans la situation politique à présent? Il y a encore beaucoup d'obstacles devant le gouvernement de Naftali Bennett et Yair Lapid. Le premier étant, et c'est reconnu, son hétérogénéité idéologique. Êtes-vous confiant en l'avenir, David Benichou?
Oui, déjà, alors, il y a une chose que je veux faire remarquer, c'est que pour beaucoup de gens, et ça a été un petit peu les éléments de langage qui ont été produits contre nous, c'était de dire que ce sont des manifestations de gauchistes, de propagateurs de maladies, avec tous ces éléments de langage.
J'allais vous poser la question plus tard, mais c'est bien, parlez, je vous la poserai.
Mais moi, j'ai eu la chance, j'ai eu le bonheur de rencontrer déjà, premièrement, après 6 ans en Israël. Alors, j'ai une vie en Israël avant, bien sûr, mais après 6 ans en Israël, j'ai eu la chance de côtoyer des pilotes, des chefs d'escadron, des anciens du Shabak, des anciens du Mossad, des gens formidables avec qui j'étais en lien, avec qui on discutait, on refaisait le pays. Et je peux vous dire, j'avais dans ce public que je rencontrais, que je côtoyais, des gens de droite, des gens du centre et des gens de gauche. C'est-à-dire que d'une certaine manière, le gouvernement actuel, qui est une mosaïque qui va de Avigdor Lieberman jusqu'à Aram, le parti arabe musulman modéré, est quelque part à l'image des gens qui se sont mobilisés durant un an. Et donc, de ce point de vue-là, il y a un rapport entre la mobilisation citoyenne et la façon dont elle se traduit politiquement aujourd'hui par ce gouvernement. Donc ça, c'est un point important. Sur ce qui nous a fait sortir, effectivement, on a eu, à la faveur du corona et à la faveur de... Il faut bien comprendre, à partir du moment où Gantz décide, dans une situation particulière, de rejoindre Netanyahou, c'est 1 200 000 personnes qui se sentent flouées. Et je peux vous dire que cet événement-là, malgré le corona et l'angoisse qu'il y avait autour de cette pandémie, beaucoup, beaucoup, énormément de gens, massivement les gens, ont rejoint le mouvement de contestation.
Ils ont été déçus.
Profondément, avec le sentiment. Il faut comprendre, c'était la 3e campagne, et à l'issue, c'était 3 campagnes électorales dans lesquelles il y avait un mantra qui était permanent, qui était de dire « tout sauf Bibi, on le sort ». On s'en débarrasse. Ça a été le discours quasi unique de l'opposition pendant les 3 campagnes électorales pour arriver finalement à le rejoindre dans un contexte de crise sanitaire. Les gens se sont sentis particulièrement en colère. Je peux vous dire que les gens que je côtoyais, beaucoup d'entre eux, et d'ailleurs il y avait des gens de droite, de gauche, droite modérée, qui étaient profondément déçus et qui disaient « c'est pas possible, une fois de plus ». Il nous a fait une entourloupe et une fois de plus, on se retrouve avec Netanyahou. C'est insupportable, c'est inadmissible. Donc, il faut bien comprendre
le contexte et l'état dans lequel étaient
les citoyens qui avaient voté Gantz en s'attendant à ce qu'il y ait une alternance.
D'accord. Alors, je vais vous poser la question tout de suite. Votre mouvement et vous, je suppose également, vous avez été traité de gauchiste. Hein, on vous a traité de gauchiste. On vous a traité de traître. D'antisionistes, de mauvais juifs, j'en passe et des meilleurs. Comment vous réagissez à ces insultes? Est-ce que c'est le Comment vous expliquez cette hargne? Parce que, bon, ce n'est pas la première campagne politique en Israël, hein, il y a déjà eu des élections, mais là, ça a atteint un niveau où vraiment tout le monde s'insultait en se traitant de ce qu'il n'était pas, quoi.
Tout à fait.
Yair Golan, ça devenait un gauchiste, voilà, alors que c'était le futur chef d'état-major de Tsahal, enfin, voilà. Comment vous expliquez ça? Comment vous avez réagi à ce flot de d'insanité?
Alors, d'une part, il faut bien comprendre la mosaïque des gens qui m'ont rejoint dans le mouvement des démocrates mobilisés. J'ai créé ce mouvement parce que, pour des raisons assez simples, c'est que moi, j'étais déjà dans les manifestations avec Crime Minister à Kikara Abima, et je me sentais très seul. Et je me suis dit, il faut qu'on s'organise. Et quand sont arrivés les premiers convois vers la Knesset, il y avait des questions techniques, de trouver une bagnole, de faire un trimp, etc. Des choses, a priori, qui ne sont pas extraordinaires. Et je me suis dit, il y a d'autres gens comme moi qui ont envie de prendre part. Alors, il faut dire le profil des gens. Le profil des gens, premièrement, la palette des gens qui étaient autour de moi et qui se sont mobilisés pendant un an, c'était des gens qui allaient de droite jusqu'à la gauche. C'est des gens qui sont en Israël depuis 15, 20 ans, 25 ans. Ce ne sont pas des gens qui sont arrivés récemment, qui ont une lecture, qui ont pris la distance et qui savent lire l'hébreu et qui n'écoutent pas que seulement I24, mais qui regardent aussi le journal télévisé du soir. Et je peux vous dire, la réponse que j'ai fait systématiquement, j'ai fait mon aliyah en 82, j'avais 16 ans. J'ai fait mes études à l'université, j'ai servi 3 ans dans une unité d'élite de Givati, j'ai perdu des hommes, j'ai fait mon devoir vis-à-vis d'Israël. Ça ne m'a jamais empêché de garder de l'humanité vis-à-vis de la population arabe face à laquelle on se trouve. Ça ne m'a jamais empêché d'être un homme qui défend et qui est sioniste, qui défend son pays et qui est prêt à mourir. Et je me suis retrouvé au Liban dans une situation de danger. Personne, mais personne n'a de leçon à me donner sur le fait d'être en Israël et de défendre ce pays. Et lorsque les gens m'attaquent et m'insultent et que je leur dis « Ok les amis, moi j'ai servi à l'armée et quand je suis venu en France pour faire mes études et que j'ai continué à travailler dans la communauté, j'ai servi 10 ans la communauté juive. Que quelqu'un vienne me reprocher quoi que ce soit, j'ai le droit d'avoir les positions que j'ai le droit de ne pas être d'accord avec un Premier ministre qui entraîne dans un pays vers quelque chose qui est de l'ordre de la démocratie libérale. Si je vois que quelque chose se passe et que je ne suis pas en tant que citoyen d'accord avec ce qui se passe, je descends dans la rue. Je n'ai de compte à rendre à personne, aucun juif de France, aucun juif d'Israël qui n'a pas rempli ses fonctions puisse venir me reprocher quoi que ce soit. Donc voilà, c'était ma réponse systématiquement. Et je peux vous dire, je parle en mon nom, mais je parle au nom de tous mes amis. Tous mes amis, c'est des gens qui ont servi ce pays, qui ont travaillé, qui ont payé leurs impôts, qui ont été à l'armée. Tous les gens qui étaient avec moi sont des gens qui ont rempli leur devoir de citoyen. Et personne ne peut venir leur pointer du doigt quoi que ce soit, juste parce qu'on se comporte vis-à-vis de Netanyahou comme si c'était le roi ou un espèce de messie ou que sais-je. Que les gens remplissent leurs fonctions, qu'ils fassent leurs devoirs et qu'ils puissent donner ensuite des leçons. Ça a été systématiquement ma réponse. Généralement, je ne réponds pas, mais quand certaines personnes m'ont blessé et m'ont attaqué, j'ai dit « Ok, qu'est-ce que vous avez à mettre en face ?» Et après, on discute.
Alors, je vais vous poser une autre question qui est tout à fait en relation avec ce que vous venez de développer. Est-ce que vous et vos camarades, vos amis, vous haïssez Netanyahou ?
Non.
Est-ce que, comme l'affirment ses partisans, est-ce qu'il n'a rien apporté de bon à Israël ? Est-ce que votre seule idée, votre phobie, c'est de le chasser du pouvoir, un point c'est tout ? Est-ce qu'il y avait une espèce de fixette malsaine sur l'ancien Premier ministre ?
Non, non. Je l'ai dit à plusieurs occasions, je l'ai écrit aussi. Je n'ai à titre personnel ni de haine, ni d'acrimonie à l'endroit de Netanyahou. Je pense que Netanyahou a mené une politique avec laquelle je ne suis pas d'accord, qui est une politique essentiellement basée sur le fait d'être narcissique et de mettre Israël en avant. Ça n'a pas été toujours ce mode de faire qu'a Israël. Mais personnellement, je n'ai pas un bilan positif de la politique de 12 ans de règne de Netanyahou. Mais après, c'est discutable. Je n'ai pas de haine. Et je pense que beaucoup de nos auditeurs ne comprennent pas que Netanyahou a dévissé. À un moment donné, dans les dernières années, Netanyahou n'a plus compris qu'il transgressait consciemment. À un moment donné, il n'a plus pris conscience qu'il y avait des limites et des lignes rouges qu'impose la loi. Comme tout citoyen, même Premier ministre, il doit respecter la loi. Et à un moment donné, dans l'esprit de Netanyahou, il n'y avait plus de loi. Toutes les lignes rouges étaient en train de sauter les unes après les autres. Et je pense que, je vais vous le dire, et ça va choquer beaucoup de nos auditeurs, je pense que Netanyahou est malade. Je pense qu'il y a une pathologie psychique, c'est Netanyahou, qui fait qu'à un moment donné, il n'a plus su où étaient les limites. Et il était, comme le roi Soleil, je suis l'État d'Israël. Et c'est et je. Et on l'a vu petit à petit ce discours où Netanyahou s'est déconnecté du nous, de l'État d'Israël, en disant je. Et à un moment donné, tout était sur lui. Et il était à la fois le peuple juif, à la fois l'État d'Israël. Et je pense que ça relève de la pathologie. Et c'est une des raisons pour laquelle nous avons été inquiets en disant c'est un homme qui n'a plus aucune ligne rouge. Le conflit avec le Hamas récent est une façon, de mon point de vue, de faire tout sauter la veille d'une coalition qui pourrait l'exclure, et ça s'est quand même passé. Et les Israéliens, là-dessus, lui pardonneront pas.
Alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais la gestion, de la gestion du corona sous Netanyahou, ça a été un succès international pour Israël, puisque Israël est cité en exemple, et encore maintenant, à ce niveau-là, dans le monde entier.
C'est la référence.
C'est la référence. Qu'en pensez-vous ?
Alors, je vais vous répondre de deux manières. C'est rigolo, parce que je répondais à un post ce matin dans ce sens. Si vous voulez, quand vous analysez une façon de faire face à l'adversité, il ne faut pas s'arrêter juste à la façon dont vous avez géré les choses à la fin.
Bien sûr, bien sûr.
Donc,
on est d'accord.
Donc, on a, dans une conjonction dont tout le monde n'est pas toujours au courant, puisque ça a été annoncé dans la presse il y a quelques jours, dans une conjonction où Pfizer ne pouvait pas vendre à l'Europe, qui n'avait pas encore validé, Israël s'est engouffré et l'a bien fait. Et ça a été intelligent, et ça a été nécessaire, et ça a été efficace. Il y a eu les vaccins et ça a permis en très peu de temps d'arriver à l'immunité collective. Super, et je dis bravo.
D'accord.
Mais oui. Nous avons eu 6200 morts. Alors évidemment, en rapport à la population, et ça ne nous positionne pas nécessairement dans les pays qui étaient les plus pertinents dans leur stratégie. On a eu des projecteurs, c'est-à-dire les gens qui dirigent au ministère de la Santé, trois qui se sont succédés et qui ne pouvaient pas concilier l'instrumentalisation politique d'un côté et d'un autre les règles de santé publique générale. On a eu aussi les partis orthodoxes qui se sont désolidarisés des publics généraux, de la politique générale,
oui, c'est vrai,
pour mener leur propre... Et je vais vous dire une chose, tout le monde parle, mais en réalité, le public orthodoxe, une personne de plus de 70 sur 100 est morte dans le corona. On a un public orthodoxe qui a dit à l'État d'Israël « Vos lois ne sont pas nos lois et on fait ce qu'on veut ». Ça a été un élément de crise. Alors évidemment, maintenant, on regarde en arrière, dans le contexte de la France, dans le contexte de l'Europe, mm-hmm. on se dit « Ah, Israël, formidable ». Mais aussi, on pourrait prendre la Nouvelle-Zélande. Peut-on parler de la Nouvelle-Zélande ?
Oui.
Sur le travail qui a été fait par Jacinta. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Quand on regarde après coup et qu'on regarde les éléments de la fin, on se dit c'était super. Moi, j'étais dedans.
On peut reconnaître un point positif là-dessus quand même.
Oui, je l'ai dit.
Gouvernement.
Oui, je l'ai dit, je viens de le dire.
Oui, il vient de le dire.
Je viens de le dire, c'est très clair, je l'ai dit. Le fait de pouvoir avoir rapidement des vaccins, lancer une campagne de vaccination était un élément positif. Et aujourd'hui, on sait, on est bien ailleurs de là où se trouve la France, puisque je me balade là, c'est plus quelques jours. Et je comprends, moi, c'est presque pour moi, presque surréaliste, puisqu'on est déjà passé à autre chose. J'ai pas de problème à le dire. J'ai absolument pas. Vous savez, dans une démocratie, ce qui est important, c'est à la fois le résultat et à la fois les procédures qui mènent à ce résultat. Si on oublie en route que le Premier ministre prend tout seul les décisions, alors c'est un parti de poker. Il peut prendre des bonnes décisions
ou des mauvaises.
Et des mauvaises. Donc, ce que je reproche, c'est pas le fait qu'on ait pris une bonne décision, c'est le fait que le processus, hein, juste pour la petite histoire, on a mis au secret 30 ans de protocole, de discussion de la commission Corona. Il y a quand même quelque chose. Pourquoi on fait ça ? Pourquoi on met au secret ? On a besoin d'apprendre sur la gestion de cette épidémie. Donc, il faut bien dire les choses. Je sais reconnaître quand quelque chose est bien fait, mais je suis un démocrate et je dis, on peut bien faire les choses, mais il y a des processus et un Premier ministre ne peut pas passer au-dessus des règles démocratiques pour prendre des décisions tout seul.
Oui. Une dernière question, très rapidement.
D'accord. Alors, écoutez, on va revenir sur quelque chose de moins positif. Il y a eu des émeutes pendant la guerre de Gaza, là, Arabes contre Juifs et Juifs contre Arabes. Je crois que c'est, enfin, tout le monde est sonné, tout le monde pense que c'est très grave. Et c'est bizarre parce qu'il y a quand même, malgré tout, un parti arabe qui va plus ou moins rejoindre le gouvernement, même si ça demeure modeste. Est-ce que vous pensez que ce gouvernement hétérogène va être capable de rapprocher citoyens israéliens arabes et citoyens juifs arabes? Est-ce qu'on va revenir à la situation moins hantée où il y avait eu un rapprochement pendant le corona, les gens travaillaient ensemble, il y avait une grande solidarité? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'ils sont capables de faire
ça? Une minute.
C'est pas compliqué. les citoyens juifs et arabes vivent et travaillent ensemble.
Mais oui.
Et quand vous avez...
Il y a eu des morts quand même.
Oui, mais vous avez des lieux. Des lieux comme à Lod, comme à Ramlé, comme à Akko, qui sont... Il y a des lieux de tension.
Et à Fouam,
mais attention, à Jérusalem. Mais attention, ce sont... Vous savez, dans cette époque moderne qu'on vit, quelque chose qui est exceptionnel et très visible apparaît comme étant la majorité, alors que souvent, ce sont des minorités, des phénomènes qui sont des épiphénomènes, mais parce qu'on communique dessus, on croit que c'est la majorité. Je peux vous dire une chose. Les Israéliens, Arabes et Juifs, travaillent ensemble et de mon point de vue, ils ont été et ils sont exemplaires dans le vivre ensemble.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. David Benichou, merci beaucoup d'être passé dans le studio de Radio J.
Bonne semaine à tous.
Meyerson, merci à vous aussi.
Allez, au revoir. C'était Chronique pour la paix, Lise. À bientôt.
Au revoir.